Radio Grand Ciel présente Be Jazz, soyez jazz, une émission réalisée grâce à la participation technique de Claude Cazal. Au micro, Christiane Blain. Je suis très heureuse de présenter toutes ces émissions sur le jazz dans le cinéma avec Patrick Durand et Gilles Segaz. Patrick Durand, un médecin qui explique le cheminement de compréhension du jazz par la neurobiologie. Gilles Segaz, un journaliste qui pratique la guitare dans des formations de jazz. Patrick Durand est venu avec son piano. Bonjour Patrick Durand.
Bonjour Christiane Blain.
Et Gilles Segaz est venu avec sa guitare. Bonjour Gilles Segaz.
Bonjour Christiane Blain.
Pour cette première émission consacrée au jazz dans le cinéma, nous allons évoquer un film qui aborde, je dirais, tout à fait directement le problème de l'addiction dans les milieux des musiciens de jazz. Frank Sinatra y incarne Frank Machine, un ex-héroïnomane devenu batteur en cure de désintoxication qui, une fois sorti, est rattrapé par ses anciens démons.
Ouais, je crois qu'on peut poser d'emblée la question, comment se fait-il qu'il y ait autant de musiciens de jazz, et je dirais plutôt d'artistes, qui se soient accrochés, qui aient été accrochés par une des drogues qui accroche le plus, c'est-à-dire la coke, la cocaïne. C'est une question que je trouve un petit peu fondamentale. Est-ce que l'artiste doit inévitablement voir des paysages improbables pour mieux composer, pour mieux jouer?
Et moi, je pense que vous qui êtes médecin, vous êtes le seul à pouvoir nous expliquer cela. Je pense que le cerveau doit être encore plus excité.
Il est sûr que l'hyperstimulation du cerveau a toujours contribué à la création d'images improbables, d'images de rêve. Et c'est peut-être pour cela que les gens qui veulent s'échapper du quotidien se réfugient soit dans la musique, soit dans ces drogues. Donc nous allons parler effectivement de l'addiction. Dans ce film, L'homme au bras d'or, pour nous mettre dans l'ambiance. Alors, L'homme au bras d'or est l'adaptation d'un roman de Nelson Algren. Nelson Algren est un écrivain nord-américain né à Détroit, un romancier typique de Chicago. Ses œuvres sont le reflet de la vie américaine. On en entend beaucoup parler ces jours-ci, puisqu'il y a un livre qui vient de paraître où on le voit vivre avec Simone de Beauvoir. Donc, c'est quelqu'un qui connaît vraiment bien Chicago. Et je dois dire que dans ces films, dans les livres et donc dans le film éponyme, eh bien, on pourra voir tout le reflet de la vie américaine. C'est d'ailleurs Otto Preminger à qui l'on doit le très beau Laura, 1944, et le non moins original Carmen Jones, qui le réalise en 1955. Otto Preminger aura dû se battre contre les censeurs de la MPA qui bannissent le mot narcotique, l'évocation de trafic de drogue et toute idée de descente aux enfers sans rédemption.
La MPA, qui est la Motion Picture Association, oui, dirigée dès cette époque, en 1955, par Charlton Heston, ouais, que l'on retrouvera beaucoup plus tard, dirigeant aussi la NRA, la National Rifle Association.
Oui, c'est-à-dire.
C'est-à-dire cet organisme pro-armes aux États-Unis. Et la MPA, Otto Preminger va se battre contre elle et va gagner sa bataille. Otto Preminger, lui, défendait la liberté d'expression des auteurs de tous ordres, de toutes mm-hmm. disciplines. Et par le biais de la Constitution américaine, il finira par avoir raison de la censure de la MPA. C'est très curieux parce que, peut-être pas grâce à cela, mais en tout cas, le public, Otto Preminger avait parié sur la maturité du public américain à l'époque, en disant à l'MPA, mais ça n'a aucune espèce d'importance, au contraire, on peut parler de la drogue, on peut parler du trafic de drogue.
Mais c'était un pari quand même.
C'était un pari, et il gagne son pari, mm-hmm. et la MPA va disparaître, tout comme le fameux code Hays qui régissait le cinéma américain depuis les années 20, le code des bonnes mœurs américaines, qui disparaîtront de la même façon, emportés par le succès de L'homme au bras d'or, qui n'en méritait pas tant.
Peut-être aussi parce qu'il y avait Sinatra.
Peut-être aussi parce qu'il y avait Sinatra, mais pas simplement Sinatra. Parce que, enfin bon, on peut en reparler, mais Sinatra incarne un personnage avec beaucoup de brio. Pas un personnage facile, un homme qui va être attrapé par ses démons dans un Chicago très noir, très sale, très lugubre, dont parlait Christiane à travers l'évocation de Nelson Algren. C'est une belle performance que Sinatra signe là, il faut le reconnaître. Et une autre performance est sortira de tout cela, c'est celle de Kim Novak.
Ah oui.
La comédienne Kim Novak, qui signera certainement là son plus beau rôle au cinéma. Nous allons écouter un autre extrait de la musique de Elmer Bernstein, de L'homme au bras d'or. C'est Clark Street, c'est la rue où se retrouve, où arrive Frank Sinatra au tout début du film, dans son ancien quartier.
On suit le pas tranquille et cependant vigilant de l'artiste.
C'est tout à fait exact. On voit dans cette séquence Sinatra descendre du bus.
On s'y croit.
On s'y croit. Il arrive dans son quartier mal famé et les décors sont d'ailleurs assez extraordinairement reconstitués. On est vraiment dans une grande ville sombre, triste. Au pavé mouillé. La musique d'Elmer Bernstein est pour ça magnifique.
Alors peut-être vous pouvez nous dire quelques mots sur Elmer Bernstein, justement. C'est un compositeur américain né en 1922 à New York. Il est mort en Californie à 82 ans. C'est un génie.
Oh, c'est un génie. Il a signé nombre de musiques de films à succès.
C'est ça.
Les Sept Mercenaires, par exemple,
oui.
Que tout le monde connaît.
Nous revenons au film Cet homme au bras d'or. Donc l'histoire, c'est donc ce gars qui revient à Chicago dans un quartier qui est mal famé après avoir séjourné dans un centre de désintoxication. Là-bas, il a appris la batterie. Il est décidé à vivre de cette batterie, c'est-à-dire à devenir batteur professionnel.
Il subit très vite la pression de sa femme Zosh, une névrosée qu'il a épousée pour se déculpabiliser après l'accident de voiture qui l'a laissé handicapé. «
son ancien employeur,
qui Shifka.
S'appelle Shifka, nom impossible à prononcer, a besoin de lui pour tenir la table de jeu de son tripot. Et Frankie doit son surnom d'homme au bras d'or à la maîtrise qu'il a dans la distribution des cartes de jeu.
Oui, on l'appelle d'ailleurs, dans le texte français, dans le dialogue français, il s'appelle la distrib, the dealer, en anglais. Il subit d'ailleurs la pression aussi de son ancien employeur, son ancien pourvoyeur d'héroïne, Louis, auquel il doit de l'argent.
On peut dire en quelque sorte que c'est une histoire de drogue, de jeu, d'amour et de mort dans le Chicago des années 50. Et tout cela magnifié par la traduction de Boris Vian. D'ailleurs, pour bien comprendre ce film, il vaut mieux un peu connaître l'argot.
C'est tout à fait exact.
Oui. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de mots difficiles à comprendre.
Il y a pas mal de mots difficiles à comprendre. Boris Vian s'en est très bien sorti.
Ah oui,
quand on regarde la version originale, c'est pas toujours facile si on ne maîtrise pas, comme c'est mon cas, l'américain. Il y a un autre personnage dans L'homme au bras d'or qui est très important, c'est la voisine.
Ah oui, la voisine,
Molly,
bien sûr.
Qui est interprétée par Kim Novak, qui est magnifique.
Ah oui, elle est belle.
Et puis il y a aussi le simplet de la bande, Sparrow, qui est l'ami et acolyte de Frankie Machine. Et malgré tout ça, Frankie va céder à la fois à la drogue et au jeu.
À propos de drogue, nous allons voir The Fix.
La musique de Bernstein est sans complaisance quand elle accompagne les personnages dans les situations angoissantes et dérangeantes, comme la crise de manque ou de Frankie Machine où les suraigus des trompettes se font l'écho de ses souffrances. Là, dans cette scène, Frank Sinatra est terriblement mal. Il a froid, il est carrément en manque. Peut-être les symptômes évidents du drogué à la cocaïne ou à l'héroïne, n'est-ce pas, Patrick ?
Oui, tout à fait. L'illustration de Bernstein est très intéressante avec ces notions de à la fois de sonorité et il ne faut pas oublier que les crises de manque, ce sont à la fois des crises auditives et ce sont des crises sensitives sur le corps. Et moi, je trouve que le Bernstein nous fait un joli travail pour montrer toute la complexité du ressenti de ceux qui sont en crise de manque. Le fixe, c'est la dose. Et il faut avoir sa dose régulièrement. Et plus le temps passe, plus la situation devient angoissante pour celui qui manque, avec, bien sûr, la douleur, les transpirations et tous ces phénomènes de manque, et qui aboutissent souvent aussi à des gestes involontaires, à des saccages, à des on arrache à fois ses vêtements, on peut détruire l'endroit où l'on est. Et dans le cas précis, Frankie va donc saccager sa chambre là où il se trouve. Nous allons écouter une autre illustration après le fixe, donc, c'est-à-dire la dose qui manque sur Frankie. On va écouter le break-up. Le break-up,
c'est tout cassé.
C'est la fin, oui.
Thank you.
Frankie Machine est pris au piège. Il est obligé de participer à une partie de poker dans le tripot de son employeur et pour avoir sa dose, évidemment. Il finit par assaillir son pourvoyeur de drogue, Louis. Et il va tout de même, après une nuit blanche, essayer de passer une audition comme batteur professionnel parce qu'il y a une place à prendre et qu'il y tient, mais malgré tout il n'est pas du tout en état et il est pris de tremblements en audition et évidemment il perd toutes ses chances d'obtenir le poste. On va écouter la partition originale d'Elmer Bernstein pour cette séquence.
Donc il s'agit donc de l'audition. La séquence d'audition de Frankie.
C'est la trompette de Shorty Rogers que l'on entend et la batterie de Shelly Mann dans cette séquence audition. Alors quand Louis découvre que Zosh simule la paralysie pour garder Frankie et qu'il menace de révéler la vérité, elle le pousse dans les escaliers et le tue. Frankie va être soupçonné du meurtre et il va se cacher chez sa voisine Molly et avec son aide va décider de se désintoxiquer. Épreuve, une très très belle scène d'ailleurs, au cours de laquelle Frank Sinatra incarne un personnage qui va se battre contre les méfaits, là encore, du manque de drogue. Mais après une journée, une nuit entière passée à lutter, il finira par en sortir vainqueur de cette lutte. Il va annoncer alors à Zosh qu'il va la quitter, et c'est dans une crise d'hystérie qu'elle révèle sa supercherie. Alors que la police vient pour l'arrêter, elle se jette dans le vide. Frankie et Molly sont alors libres de recommencer une nouvelle vie. La séquence baptisée The Cure, au moment où il passe à la désintoxication grâce à son amie Molly. C'est amusant parce que quand on évoque l'homme au bras d'or, on y associe automatiquement la musique d'Elmer Bernstein. En 1955, Bernstein n'a que 32 ans et n'a signé aucune bande originale majeure. Mais encore une fois, Otto Preminger a repéré ce talent. Et n'ayant aucune intention de lui imposer ses goûts, il laisse carte blanche au jeune compositeur qui propose une musique jazz. Aujourd'hui, ça peut paraître anodin, mais à cette époque, n'est-ce pas Christiane, aucun film important n'avait utilisé ce genre de partition.
Oui, d'ailleurs, de cette expérimentation naîtra une bande originale absolument magnifique qui utilise une rythmique, je dirais, très, très cuivrée. Le disque deviendra rapidement un standard et Bernstein verra sa notoriété exploser. Par la suite, il va signer d'autres scores inoubliables. Je pense aux Sept Mercenaires, La Grande Évasion ou alors plus récemment Loin du Paradis de Todd Haynes. En fait, le rôle de batteur qui est joué par Sinatra permet à Bernstein d'intégrer une petite formation de jazz à un orchestre beaucoup plus large. Elmer Bernstein, un pianiste, concertiste, compositeur pour la radio, arrangeur pour Glenn Miller, connaît bien l'univers du jazz et quand on l'écoute, on est tout pénétré par sa musique.
Absolument.
Oui.
Il y a un atout supplémentaire à la partition de ce film. Bernstein fait appel au trompettiste Shorty Rogers pour des arrangements et à Shelly Manne en tant que batteur et conseiller auprès de Sinatra et à la trompette de Pete Condoli. C'est très important parce que Bernstein avait non pas le goût de la perfection, mais une idée très 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 précise de ce qu'il voulait avoir à l'image. C'est une ambiance et les musiciens de jazz n'étaient pas tous tout à fait prêts à accepter le défi. Et seuls des gens comme Shelly Manne ou Shorty Rogers ont accepté de le faire.
Oui, moi je pense que là, le jazz, cet apport du jazz, c'est quelque chose de très novateur dans ce film. Et je dois dire que, surtout dans les scènes où la masse orchestrale est abandonnée au profit de la formation de jazz, on peut dire qu'on n'a plus une musique douce, sucrée, comme on pouvait avoir dans les années 30. Bernstein n'a pas peur, finalement, des dissonances de la musique contemporaine et des innovations rythmiques du jazz moderne. Il est tout à fait contemporain.
C'est tout à fait vrai. Et dans sa partition, on reconnaîtra, vous avez certainement dû l'entendre, chers auditeurs, que le thème principal du film est repris à l'envi, réarrangé, détourné, mais il est toujours parfaitement présent, parfaitement identifié. C'est pas tout à fait ce que Bernstein avait à l'idée dès le départ, mais il faut reconnaître que ça fonctionne parfaitement bien.
Donc Otto Preminger restera attaché à cet esprit de jazz, et c'est dans cet esprit-là qu'il propose à Duke Ellington de signer la bande originale d'Autopsie d'un meurtre. Le jazzman d'ailleurs fait une apparition dans le film.
Très courte.
Mmh. Nous parlerons, je crois, de ceci dans une émission ultérieure, n'est-ce pas, Jim ?
Autopsie d'un meurtre, qui est un film dont nous reparlerons, effectivement, Patrick, au cours d'une prochaine émission, avec une musique assez extraordinaire, il faut l'avouer, un Duke Ellington qui s'est encore surpassé.
Eh bien, je vous invite à écouter « Return of the Man ».
Thank you.
Chers auditeurs, nous vous invitons à venir écouter notre prochaine émission dans un mois. Elle aura pour sujet « Ascenseur pour l'échafaud ». Un très beau film d'abord, et j'espère que vous aurez peut-être le loisir de le regarder pour mieux écouter le jazz avec ce film « Ascenseur pour l'échafaud ». Vous n'oubliez pas de nous rejoindre sur notre site internet www.radiograndciel.fr. Merci Gilles Secaz.
Merci Christiane Blin.
Merci Patrick Durand.
Merci Christiane Blin.